Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les start-up tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces.
Salut, je suis Nicolas, journaliste virtuel cette semaine. C'est moi qui vais vous présenter le meilleur de l'actu tech.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, en effet, un journaliste virtuel prend la parole dans Monde Numérique. C'est avec lui, dans un instant, que l'on va passer en revue l'actu de la semaine. Alors on parlera justement des avancées spectaculaires en matière de clonage vocal, mais aussi de clonage vidéo. On reviendra sur les pannes dans les services de Meta. On va s'intéresser à Amazon qui abandonne son système high-tech Just Walk Out pour ses magasins. Et puis on parlera d'Apple qui est attaqué en justice pour, tenez-vous bien, la couleur de ses SMS. Le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti comme chaque semaine. Eh bien, on va parler d'Apple, justement, qui préparerait des robots domestiques. Et on parle aussi de droit à la déconnexion. Les interviews de la semaine. Dassault Systèmes, tout d'abord, pour découvrir comment la technologie du jumeau numérique a permis de mener à bien la reconstruction de Notre-Dame. Et puis, on retrouvera une marque historique de la tech, TomTom, le roi du GPS, qui continue plus que jamais à tracer sa route. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 6 avril 2024.
Monde Numérique, Jérôme Colombin.
Ravi de vous retrouver, comme chaque samedi pour Monde Numérique, l'hebdo, 50 minutes de news et d'interviews. Et puis les autres jours de la semaine, Monde Numérique, ce sont aussi des interviews long format, des éditos, des bonus, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et aussi sur les assistants vocaux si ça vous chante. Monde Numérique, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur le site mondenumérique.info. Tiens, un petit mot justement à propos de mondenumérique.info, pour vous dire que vous y trouverez plus que simplement les épisodes audio. Également des articles, des transcriptions d'interviews et depuis peu une petite réorganisation par rubrique. Donc comme il s'agit souvent d'interviews qui ne sont pas collées à l'actualité mais peuvent s'écouter des semaines ou des mois plus tard, n'hésitez pas à les fouiller et vous découvrirez peut-être des choses assez intéressantes sur mondenumérique.info. À noter aussi, petit message de service, visiblement il y a des problèmes en ce moment sur la plateforme Apple Podcast car j'ai reçu pas mal de commentaires et de messages d'auditeurs m'indiquant qu'ils ne tombaient pas sur les bons épisodes, ça ne correspondait pas, c'était d'anciens épisodes avec la description d'un nouveau. Et en fait, c'est qu'il y a vraiment des soucis en ce moment sur Apple Podcast. Donc la solution dans ce cas-là, c'est de vous désabonner et de vous réabonner. Et en principe, ça règle le problème. Voilà, on passe tout de suite, vous allez voir, à quelque chose, j'espère, qui devrait vous intéresser et peut-être bien aussi vous surprendre.
L'actu de la semaine.
Et pour l'actu cette semaine dans Monde Numérique, eh bien, je vous propose une expérience. Une expérience et une première technico-journalistique dans cette émission. La journaliste Lisa de Bernard, qui se charge habituellement de vous présenter l'actu de la semaine, est actuellement en vacances. Alors pour remplacer Lisa, eh bien, après avoir un peu hésité, c'est vrai, j'ai finalement décidé de convoquer une intelligence artificielle. En tout cas, une voix générée par intelligence artificielle à partir d'une voix réelle. Je vous présente donc Nicolas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Alors vous allez voir, Nicolas est particulièrement efficace. Mais je tiens à préciser que toutes les infos qu'il va vous donner ont été vérifiées et même écrites par moi-même. Et on commence par WhatsApp qui a connu une nouvelle panne cette semaine, une panne mondiale qui a créé pas mal d'émoi.
Oui Jérôme, mercredi 3 avril 2024 restera une soirée particulièrement frustrante pour des millions d'utilisateurs de WhatsApp à travers le monde. Vers 20h15, la populaire application de messagerie instantanée appartenant au groupe Meta a subi une panne majeure, privant ses usagers de la possibilité d'envoyer et recevoir des messages. Les signalements de dysfonctionnement se sont rapidement multipliés sur les réseaux sociaux et les sites de suivi comme Down Detector, WhatsApp, qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels, s'est retrouvé paralysé avec des messages restant indéfiniment en attente d'être envoyés et sa version web affichant un laconique service indisponible. Cette nouvelle panne d'envergure mondiale intervient seulement un mois après qu'Instagram et Facebook, deux autres plateforme de Meta, ait été victime d'une importante défaillance liée à un problème de connexion.
Alors comme d'habitude, la question qu'on se pose, c'est mais que s'est-il donc passé ?
Bien que Meta soit plutôt avare en communication, les principales hypothèses évoquées par les experts sont celles d'un problème au niveau des serveurs ou d'une faille dans l'infrastructure technique de WhatsApp. Finalement, après plusieurs heures de perturbations, WhatsApp a progressivement repris du service aux alentours de 20h45 mercredi soir. Mais aux environs de 21h, de nouveaux signalements faisaient état de problèmes sur les autres plateformes du groupe Meta, Facebook, Messenger, Instagram et Threads.
Et c'est pas tout, à noter que d'autres pannes ont été signalées aussi du côté d'Apple avec des perturbations sur le site web de la marque et également des services Apple TV, Apple Podcast et Apple Music dans la nuit de mercredi à jeudi, enfin la nuit en Europe, sans qu'on sache d'ailleurs s'il y avait un rapport avec la panne de Meta. L'intelligence artificielle fait à nouveau parler d'elle cette semaine, avec au moins deux annonces majeures. Tout d'abord, c'est OpenAI qui a dévoilé le 29 mars un nouvel outil de clonage vocal. Un outil assez étonnant qui repousse encore les limites de cette technologie. Ça s'appelle Voice Engine.
Voice Engine est un modèle de synthèse vocale étonnant qui pourrait bien transformer la façon dont nous interagissons avec la technologie. Selon OpenAI, Voice Engine est capable de générer une parole naturelle et réaliste à partir d'un simple échantillon audio de 15 secondes et d'une entrée textuelle. Plutôt qu'un long discours, écoutez ce que ça donne. Voici tout d'abord une voix réelle qui sert de modèle de référence.
Friendship is a universal treasure. It brings joy, support, and laughter into our lives, no matter where we are in the world. True friends stand by us through thick and thin, sharing our joys and easing our sorrows.
Et maintenant, voici ce que Voice Engine arrive à faire avec la même voix quand on lui donne un texte en entrée, et même dans une autre langue, en l'occurrence en français.
L'amitié est un trésor universel. D'où que nous venons, elle apporte joie, soutien et rire dans nos vies. Les vrais amis se tiennent toujours à nos côtés. Contre vent et marée, ils partagent nos joies et soignent nos chagrins. Chérissons les liens d'amitié qui nous unissent, par-delà la diversité de nos langues ou de nos cultures.
Pas mal, non ? C'est presque aussi bien que moi.
Oui, oui, c'est très très bien, Nicolas. Et alors là, je crois qu'on fait vraiment très fort dans ce podcast, puisque vous venez donc d'entendre une IA qui lance une autre IA. On est en quelque sorte au summum de la mise en abîme. Ce n'est pas tout en ce qui concerne les merveilles de l'intelligence artificielle. Autre nouveauté ces jours-ci, Google a lancé un outil étonnant qui s'appelle Vlogger. Vlogger associe le clonage vocal au clonage vidéo et de manière vraiment sophistiquée, de quoi permettre quasiment à tout un chacun de se transformer en influenceur virtuel.
Vlogger est un système d'intelligence artificielle développé par des chercheurs dirigés par Henri Corona, chercheur chez Google AI, qui est capable de générer des vidéos réalistes et en haute résolution à partir d'une simple photographie. Il utilise également un échantillon de la voix du sujet pour animer le visage de manière réaliste, avec des expressions faciales, des mouvements de tête et des mouvements des mains synchronisés avec l'audio. Cela permet essentiellement de créer un véritable clone numérique animé à partir d'une simple photo statique.
Alors le résultat est assez spectaculaire, vraiment. Et alors explique-nous un peu comment ça fonctionne, mon cher Nicolas.
Vlogger repose sur des modèles d'apprentissage profond appelés modèles de diffusion appliqués à la vidéo. Il s'appuie sur une grande base de données appelée Mentor contenant 2200 heures de vidéo.
Dans un tout autre registre, les supermarchés hyper high-tech d'Amazon, vous vous souvenez ? Eh bien, c'est terminé. En tout cas, la technologie baptisée Just Walk Out est abandonnée. Cette technologie qui permettait aux clients de faire leurs courses et de quitter le magasin sans passer par la caisse grâce à un système de reconnaissance des mouvements et des articles qui étaient attrapés par les clients grâce à des caméras et des capteurs, etc. Mais Amazon va changer son fusil d'épaule.
Et oui, la technologie parfois ça cafouille. En 2016, Amazon présentait aux États-Unis ses supermarchés basés sur la technologie Just Walk Out, littéralement sortez simplement. Une véritable révolution dans l'expérience d'achat, supprimant les files d'attente interminables aux caisses. Il suffisait d'entrer en s'authentifiant avec son smartphone, de prendre les articles sur les étagères, de les mettre dans son panier et de sortir. Grâce à des capteurs, des caméras et de l'intelligence artificielle, le décompte était fait automatiquement et le montant des courses était prélevé sur le compte Amazon des clients. Mais le système s'est avéré trop complexe à mettre en œuvre à grande échelle et n'a finalement été adopté que dans une poignée de magasins Amazon Fresh et Go aux États-Unis.
Et alors en plus, on a appris que ce système, soi-disant automatique, eh bien en réalité ne l'était pas tant que ça.
En effet, selon le site The Information, ce système faisait en réalité appel à des petites mains bien réelles. Pas moins de 1000 opérateurs basés en Inde intervenaient en temps réel pour vérifier les flux vidéo et corriger les erreurs de l'intelligence artificielle. Environ 700 ventes sur 1000 nécessitaient une intervention humaine.
Donc 700 ventes sur 1000 qui cafouillent, effectivement, c'est pas d'une grande fiabilité. Et on n'est pas loin avec finalement ce truc-là de ce qu'on appelle le turc mécanique, hein, c'est-à-dire de l'IA derrière laquelle se cachent en réalité des travailleurs humains. Alors Amazon n'abandonne pas complètement la technologie, bien sûr, mais a décidé de revenir à un système un peu moins sophistiqué.
Oui, à la place, Amazon va déployer des chariots intelligents baptisés Dashcarts, une technologie plus simple mais tout aussi novatrice. Ces chariots connectés sont équipés d'un scanner et d'une balance intégrée. Les clients n'ont plus qu'à scanner chaque article avec l'application Amazon avant de le déposer dans le panier. La note est calculée en temps réel et le paiement se fait automatiquement à la sortie via le compte Amazon. Et puis Amazon compte aussi sur une autre innovation pour fidéliser sa clientèle en magasin. Amazon One, une technologie de reconnaissance palmaire qui permet de régler ses achats en un geste grâce à l'identification biométrique de la paume de la main. Même plus besoin d'avoir son smartphone ou son portefeuille sur soi.
Allez, on termine avec une news un peu insolite, mais pourtant très sérieuse. Aux États-Unis, Apple fait l'objet d'une action judiciaire pour abus de position dominante, on le sait, et notamment à cause de la couleur de ses messages.
Vous l'avez remarqué, quand vous échangez des SMS, les possesseurs d'iPhone ont des messages qui s'affichent dans des bulles bleues. Et ceux qui utilisent un autre téléphone, comme un Android, eux, ont des bulles vertes. Eh bien, cela commence à devenir un vrai problème aux États-Unis, notamment chez les jeunes, car les bulles bleues ont tendance à discriminer les bulles vertes, quitte à ne plus leur parler. Du coup, les intéressés en prennent ombrage, on appelle ça le « green bubble shaming », autrement dit, la honte de la bulle verte.
Et donc, c'est pour cette histoire de bulle que la firme américaine est dans le viseur de la justice.
Oui, depuis le 21 mars, la marque à la pomme fait l'objet de poursuites pour pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques liées à la fameuse bulle bleue. Et ce choix de couleur, loin d'être anodin, relèverait d'une stratégie marketing bien ficelée. D'après des emails internes qui ont été révélés, Apple aurait volontairement opté pour un code couleur différencié dans le but avoué de pousser les consommateurs à adopter l'iPhone pour accéder au privilège d'écrire en bleu. Le vert serait même un frein à la drague.
Voilà, on ne soupçonne pas forcément les tensions qui peuvent se cacher derrière les couleurs des bulles sur nos smartphones. Voilà donc pour cette séquence actu avec la voix synthétique de Nicolas, que je n'ai même pas besoin de remercier du coup. Alors surtout, maintenant, j'attends vos retours, vos commentaires, vos impressions, à la fois sur la voix de Nicolas, mais surtout sur le principe consistant à utiliser une voix clonée pour faire l'actu de la semaine dans Monde Numérique. Je suis convaincu depuis très longtemps que de toute façon, ce sont des choses qui vont arriver, donc il fallait que ça arrive dans ce podcast. Et si ce sujet vous intéresse, eh bien écoutez, restez avec nous parce qu'on va aller encore plus loin. J'ai remonté la piste et j'ai contacté l'humain qui se cache derrière le journaliste virtuel. En l'occurrence, il s'agit d'un professionnel de l'audio. Bonjour Nicolas Petit.
Bonjour.
De la société IA Audio. Eh bien, voilà, les auditeurs de Monde Numérique viennent de vous entendre à l'instant faire toute l'actu tech de la semaine, sauf que vous n'étiez pas du tout au courant que vous faisiez ça. Hein?
Non, pas du tout, mais j'en suis ravi. C'est vrai que si je peux permettre à une actu d'utiliser ma voix et en plus d'apporter quelque chose d'agréable à l'écoute pour vos auditeurs, je suis ravi.
Ben voilà. Alors, mais expliquez-nous un peu comment votre voix s'est retrouvée utilisée de cette manière. Comment ça marche?
Déjà ce n'est pas un vol, hein. Je l'ai
merci
voulu.
De le préciser, oui.
Non, parce que bon, on peut aujourd'hui voler des voix, de l'image et tout ça, et on voit qu'on fait un petit tout dire et n'importe quoi, n'importe quand. Moi c'est vrai que j'ai connu Eleven Labs il y a un peu moins d'un an.
Voilà, donc ça passe par Eleven Labs, hein. C'est bien.
Ça passe par Eleven Labs, qui est une startup américaine qui a fait une levée de fonds là de 80 millions de dollars. Donc pour montrer un petit peu la puissance de cette nouvelle startup qui est sur le marché du clonage de la voix. Il y en a pas 36, hein. Il y a Eleven Labs qui pour moi est la numéro 1. Il y a Murph, mais qui le développe pas vraiment. Et puis par la suite, vous avez d'autres utilités assez rapides comme Captions où on peut cloner de la voix, mais voilà, la qualité n'est pas au rendez-vous. Là, sur Eleven Labs, on travaille, ça va de 30 minutes à 3 heures quand on veut cloner sa voix, c'est-à-dire que on garde un ton et qu'on va utiliser. Et il faut toujours utiliser le même ton. La première fois que j'ai cloné ma voix, j'ai utilisé plusieurs tons et c'était la grosse erreur à ne pas faire, puisque c'est là qu'on se rend compte que votre voix après elle va osciller entre les aigus, les graves, et alors qu'il faut rester sur un ton. Si vous prenez un ton très souriant et que vous allez parler comme ça pendant des heures et vous allez avoir ce ton-là, si vous prenez un ton grave, bien sûr, je vais vous écouter, je vais vous faire parler d'enfer, si ça vous dit. Bon, voilà, bref, on peut jouer avec sa voix le clonage prend l'empreinte de votre voix. Donc, au début, c'était un mois d'attente quand on clonait sa voix. Aujourd'hui, c'est 6 heures. Donc ça a été révolutionné grâce notamment aux levées de fonds qu'ils ont pu faire dans cette startup Eleven Labs et à force on arrive à avoir une qualité je sais pas sur la voix que vous utilisez.
Ah, bah, c'est vraiment
pas
mal.
Une qualité 99%, mais on est à 95%, entre 95 et 99% proche de l'humain,
ouais.
Vraiment.
Mais alors, il y a beaucoup de gens qui sont... On a plutôt tendance à entendre un discours négatif et effrayé par rapport au clonage vocal. Vous, au contraire, vous avez décidé d'en faire un business, en fait.
Oui, c'est du contenu. J'ai décidé d'en faire un business. Je viens du monde de la radio, du monde des médias, du monde de la voix. Je pense qu'il faut apporter de l'innovation, des nouvelles technologies. Ça durera le temps que ça durera, mais pour le moment, c'est en train de se développer à vitesse grand V. Et il faut justement prendre le train tant qu'il est en marche pour avancer avec cette volonté de nouvelles technologies dans le monde des médias. C'est important. Et c'est vrai que certains sont réfractaires, vont parler de vol de droits d'auteur, de tout ça, de ci, de là. Moi, comme je dis sur l'intelligence artificielle, le mathématicien, on a inventé la calculette. Mm. Il n'y a pas eu la mort des mathématiciens, ils sont toujours là, et heureusement. Et derrière l'IA, il y a l'humain, faut pas l'oublier. Donc, tout ce qu'on fait, nous, au niveau de contenu audio chez IA Audio, avec le clonage de voix, derrière, on va s'occuper de proposer de l'audio guide, des articles audio, des contenus qui sont assez courts quand même pour les médias, parce qu'on n'arrive pas à faire des choses qui sont trop longues, parce que c'est pas très agréable. Au bout d'un moment, ça peut être indigeste. Mais sur des météos, des horoscopes et des petits contenus intelligents, on arrive à faire des choses vraiment sympathiques. Là, aujourd'hui, je me suis amusé à faire un petit audio guide pour voir ce que ça donnait. Donc, j'ai enregistré encore une voix, mais style narration. le résultat est que nous avons un Nicolas Petit qui parle français, qui parle anglais, qui parle même chinois, espagnol, fluent. Donc voilà, je pourrais vous faire écouter, mais c'est bluffant, c'est vraiment bluffant.
Mais il y a quand même une différence entre une utilisation très professionnelle, comme vous le faites, et puis ce qu'on peut faire à l'arrache avec des applications sur un smartphone, c'est pas la même chose.
C'est ça. C'est pas du tout la même chose. Moi, je vois vraiment dans le clonage vocal. Moi, j'y mets du cœur, j'y mets du temps. Il faut couper les respirations. Enfin, il y a tout un tas de choses. Ça prend. Hier, ça m'a pris la journée pour cloner une voix. Et ensuite, en plus, vous allez enregistrer pendant une heure et demie. Et puis, au bout d'un moment, vous êtes en train de faire le montage, puis vous rendez compte que l'heure et demie est en train de diminuer, puis vous vous retrouvez à 40-50 minutes.
Ah oui.
Parce que vous avez enlevé des petites hésitations, des bruits de bouche ou des respirations.
Du coup, c'est plus assez long pour l'entraînement, c'est ça?
Si, le minimum, c'est 30 minutes.
D'accord.
Alors, on estime entre 30 et 3 heures. 3 heures, c'est franchement beaucoup trop. Moi, j'estime qu'entre 40 et 1 heure, c'est parfait.
Alors, sauf que là, dans les news que vous venez de présenter, on parle du voice cloning de OpenAI qui prétend faire des merveilles en 15 secondes. Mais en réalité, la démo que je vous fais faire dans le podcast n'est pas très probante parce que autant votre voix est parfaite, autant le résultat proposé par OpenAI n'est pas exceptionnel. Donc, c'est quand même très important la durée d'échantillon.
Ouais, la durée est importante. J'ai écouté Voice Engine d'OpenAI. Oui. Bah, c'est ce que fait Captions, en fait. Alors oui, on arrive à reprendre. Bon, bah, ça reprend l'empreinte vocale, mais c'est un petit peu comme les avatars qui sont faits, qu'on voit au niveau de vidéo. Si on vous prend un avatar pendant 30 secondes, vous allez avoir une qualité d'un avatar de 30 secondes. Si on fait un avatar très poussé, poussif, à bien reprendre toute la technologie de votre visage grâce à l'IA, ça va mettre beaucoup plus de temps et une qualité qui sera optimum. Donc forcément, plus vous mettez du temps, plus le laboratoire travaille sur la voix, plus le résultat sera excellent.
Ouais. Et alors, est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent, ça, Nicolas Petit ?
Pour le moment, non. Pour le moment,
question discrète, parce que l'utilisation est payante. Hein.
C'est voilà, pour le moment, c'est du développement. C'est du temps humain, voilà. Et puis, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Alors, je vais pas vous dire que j'ai pas besoin de vivre et j'ai pas besoin d'argent. Hein. Au contraire, voilà. J'ai bien envie que ça fonctionne et que ça avance. Donc,
non, mais je veux dire, est-ce que c'est rentable? Vous êtes payé au nombre de caractères utilisés par le client, en fait. Est-ce que
à date, non, c'est pas rentable. À date, on met plus d'argent dans le développement de la technologie, des choses comme ça. Par exemple, nous, dans notre solution chez IA Audio, enfin. Nos solutions, c'est du prompt engineering. On va pas, voilà, ça va pas remplacer les métiers d'acteurs et tout ça. Il faut raison garder. C'est des choses nouvelles, mais bon.
Bon, merci beaucoup, Nicolas Petit, donc de la société IA Audio. Et vous êtes le bienvenu dans Monde Numérique. Alors, si c'est pas en vrai, ce sera peut-être à nouveau prochainement de manière virtuelle. Merci, Nicolas.
Avec plaisir. Merci. Au revoir.
Le débrief transatlantique.
Bonjour Bruno Guglielminetti.
Jérôme Colombin, bonjour.
Coucou, j'ai oublié de faire toc-toc comme ça pour entrer dans ton podcast.
Arrête, t'es toujours le bienvenu, t'as pas besoin de frapper.
Pareillement, tu es bienvenu dans Monde Numérique pour notre débrief transatlantique hebdomadaire. En plus, tu es bien réel, toi. Bruno, cette semaine, il faut qu'on parle de ce qui est en train apparemment de se mettre en place de ton côté de l'Atlantique, en l'occurrence aux États-Unis, en matière de ce qu'on appelle chez nous en France de droit à la déconnexion. Explique-nous ça.
Ouais, ça m'a fait penser à vous, puis j'étais curieux de faire le point sur où vous en êtes rendu, parce que ça fait longtemps que ça existe chez vous, mais c'est en Californie, puis ça a fait la manchette dans le Los Angeles Times. Il y avait un article qui a attiré mon attention, et c'est justement, il y a un législateur là-bas qui est en train d'amener ça sur le terrain de discussion, donc un projet de loi qui ferait en sorte que les employeurs ne peuvent pas contacter leurs employés hors des heures de travail prévues selon l'entente là, qui les oblige, qui oblige les deux parties.
Ni par téléphone, ni par message, etc. Quoi.
Pas rien, pas rien, à moins que ce soit vraiment urgent ou à moins que ce soit quelqu'un qui, dont l'emploi dépend et c'est précisé dans l'entente qui régit leur relation, leur lien d'emploi. Mais évidemment, bon, ben, on est aux États-Unis. Je te dirais que même ici, au Canada, ça ne passerait pas comme une lettre à la poste. Et il y a énormément d'embûches et ça m'a fait penser, et là j'ai été dans ma mémoire, et je me suis dit, mais les Français, eux, ils avaient fait quelque chose là-dedans. Alors, je sais que les Allemands étaient les premiers à le faire en Europe. Après, il y a la France. C'est 2017-2016.
Oui, tout à fait. En France, j'ai regardé un peu, c'est 2016.
Comment ça se fait depuis? Écoute, ça fait 7-8 ans. Là. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que les gens vivent bien? Est-ce que maintenant, vous vivez plus heureux?
Alors, les gens vivent très bien en France, hein, toute manière, d'une manière générale. Des connexions ou pas. N'aurions pas. Je ne suis pas certain que ce soit un sujet dans la mesure où... Écoute, j'ai regardé un peu, il y a eu apparemment au moins un procès qui a découlé de ça en 2018. Et il y avait un employé qui a quand même réussi à décrocher 60 000 euros de la part de son entreprise. On lui avait demandé de rester joignable tout le temps par téléphone et en dehors de ses heures de travail, alors qu'il n'était pas d'astreinte comme ça peut arriver, hein. Métiers, des fonctions comme ça où tu es vraiment d'astreinte, mais là, ce n'était pas le cas. On lui avait juste dit, écoute, c'est super avec les téléphones, tout ça, machin, où que tu ailles, s'il y a un problème, on t'appelle. et voilà, et ça, ça ne passe pas. Et alors, je sais qu'aujourd'hui, je pense que dans les entreprises, c'est quand même les employeurs font très attention à ça. Ils font très attention, il y a beaucoup de salariés qui sont aussi très vigilants, est-ce qu'on ne les embête pas. Mais maintenant, la situation a changé. D'abord, ça dépend des secteurs. Je pense que dans le numérique, dans les startups, etc., c'est un peu le contraire. Dans le journalisme, on a une vision complètement déformée parce que par définition, on est joignable tout le temps.
24 heures sur 24.
Alors, il y a quand même aussi un peu un droit à la déconnexion, un droit à des vacances. Il ne faut pas exagérer, hein, c'est pas l'esclavage non plus. Pour répondre à ta question, si tu veux, à ma connaissance, ce n'est pas un gros sujet de friction, mais ça a été finalement bien intégré par tout le monde. Mais là où ça a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de nous déconnecter. Tu peux avoir ton WhatsApp et tu le mets en sourdine. Les mails, tu n'es pas obligé de d'y répondre, etc. Là où tu peux éventuellement faire jouer la loi, c'est si on te reproche ensuite de ne pas avoir répondu alors que tu étais en dehors de tes heures de travail, quoi, finalement. Ouais. Mais vous, au Canada, ça se passe comment? Il y a une réglementation?
Ben écoute, je voulais juste être certain de pas être à côté de mes souliers et j'ai cherché. Et il y a seulement en Ontario où aujourd'hui il y a une législation qui encadre les communications hors des heures de travail. Mais sinon, partout au Canada et particulièrement au Québec, c'est encore le Far West. Donc, un employeur pourrait contacter l'employé hors de ses heures de travail pour faire un suivi de dossier et il serait pas embêté par la loi, sauf que un peu comme chez vous, je pense que toute votre démarche et tout ce qui a été dit autour de ça en fait réfléchir des employeurs et les grands noms, les grands employeurs, eux, maintenant encadrent dans le cadre de l'hygiène de vie. Là, ça fait partie de la marque employeur, hein, la qualité de vie au sein d'une organisation.
Tout à fait.
Alors, eux ont mis en place des lois. Je pense notamment, j'avais été surpris à un moment donné, je pense que c'était à Radio-Canada, l'équivalent de Radio France, où à un moment donné, j'avais reçu un courriel de recherchiste et puis je suis venu pour lui répondre. Il y avait une note qui était apparue en disant la personne ne recevra pas votre courriel avant telle heure. C'est intelligent.
Ouais. Voilà. Dis-moi, c'est quoi un recherchiste, Bruno?
C'est quelqu'un qui aide à la préparation aux émissions.
D'accord. Alors,
ça peut être un animateur qui est à l'antenne et il va être appuyé de gens qui font de la recherche pour l'aider.
Okay. On appelle ça attaché de production, nous.
Bon, voilà. Bon. Mais nous, on ne les attache pas. C'est ça la différence.
Non, mais c'est vrai. Chez nous, ils sont enchaînés. Donc, ça aussi, l'explication du terme.
De là, la qualité de la vie en France.
Tout à fait. La boucle est bouclée, exactement. Vivez enchaînés, vivez heureux. À part ça, Bruno, autre sujet dans l'actu qui a frappé ta sagacité légendaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Apple et on en parle même quand il ne se passe rien.
Ben oui, mais c'est ça. Puis moi, j'ai l'impression... Toi, t'es assez dubitatif?
Dubitatif, oui, tout à fait.
Dubitatif. Mm-hmm. T'es assez dubitatif, toi, quand vient le temps de parler d'Apple, parce que t'as toujours ton esprit très critique qui arrive à la rescousse.
Non.
Mais là, il y a cette histoire qui a été sortie par Bloomberg cette semaine, ouais, et qui est en train de raconter que, bon, ben là, maintenant qu'ils ont mis de côté la next big thing, qui était l'automobile, sur laquelle ils ont travaillé pendant 10 ans, ben là, Apple est en train de se chercher une nouvelle niche. Et la nouvelle niche, ben, ce serait dans le domaine du robot personnel.
Du robot personnel, ouais, j'ai vu ça.
Ouais.
Mais
puis là, il y a deux trucs. D'abord, moi, j'ai appris en écoutant le journaliste de Bloomberg, mais aussi en faisant mes recherches, que par exemple, le Vision Pro, ben ça là, ça vient de travaux qui avaient été faits dans le cadre de l'équipe automobile, parce que ils travaillaient à voir comment ils pouvaient intégrer l'air et le VR à l'intérieur d'une voiture automobile.
D'accord.
Et donc les travaux ont mené au développement du Vision Pro, ça c'est intéressant. Et donc toute la démarche au niveau de la robotisation, mais personnelle, fait aussi partie de ce travail-là. Et notamment, ben l'équipe avait développé une version. Imagine un iPad, mais ouais, de taille plus importante, qui aurait un bras robotisé que tu attrapes sur le bord d'un comptoir ou d'une table.
Ouais.
Et donc, à partir de ce moment-là, ben, tu lui dis où tu veux ton iPad. Et en fonction de ta situation, ben, il ajuste en temps réel la tablette.
Bon, d'accord.
Comme ça peut sembler banal. Mais si tu fais de la vidéoconférence avec ton iPad, peut-être que là, ça peut être important. Et là...
Oui, mais la vidéoconférence, je te signale que tu as la fonction de suivi du visage, du mouvement, et même du mouvement du corps, qui se fait maintenant, mais de manière logicielle. Hein.
Oui, mais imagine si en plus, tu avais le bras mécanique qui te suit, alors là, tu peux vraiment te déplacer de façon importante là, dans la pièce. Ça, c'est une chose. Puis l'autre piste sur laquelle...
Si ce n'est pas sur un drone et que ça ne peut pas voler dans la pièce, je pense que ça n'a pas grand intérêt.
Donc, je te reconnais. Et l'autre piste sur laquelle ils sont en train de travailler, ce serait un robot de plus grand gabarit quand même, qui pourrait te suivre dans la maison, il ne faut pas être paranoïaque, et qui pourrait aller jusqu'à faire la vaisselle, imagine. Alors, si tu n'as pas de la vaisselle, t'imagines, toi, tu peux laisser ta vaisselle sur le comptoir, il la prend, il
non,
la lave.
Mais franchement, mais tu y crois, ces rumeurs-là?
Le robot avec la vaisselle, non.
Bon,
mais la possibilité de pouvoir rentrer dans le marché niche du robot personnel, il y a tellement d'aura autour de la marque d'Apple. Moi, j'ai l'impression que s'ils arrivent à développer, un petit bonhomme, un petit robot qui a l'air sympathique, qui peut faire des choses, moi, je suis sûr qu'il y a des millions de ces petits appareils-là qui vont se vendre. Évidemment, c'est pas une question de prix. Là,
mais en théorie, parce que dans les faits, moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que Apple serait le dernier à faire un truc comme ça. Parce qu'il y a déjà des tentatives. Il y a Amazon qui avait fait
Amazon
ça.
Amazon qui a son robot.
Amazon qui a son robot. Il y a Samsung qui a présenté deux fois son petit robot boule Bali, qui n'est toujours pas commercialisé. Hein, la
dommage.
Première fois, la deuxième fois, il était déjà plus gros, ce qui montre que pour aller vers quelque chose de concret, il a fallu sans doute mettre plus de composants que prévu.
Et il commence à ressembler de plus en plus à R2-D2, hein,
oui,
dans ses fonctionnalités.
À R2-D2 ou à l'autre créature là, qui roulait dans Star Wars.
Ah oui, oui. Non, mais moi, j'aime mieux R2-D2 avec sa façon de parler et sa projection de vidéo qui a été tournée.
Toi, tu es de la génération de la première trilogie, comme moi.
Ouais, je suis désolé.
Non, enfin non, je veux dire, moi qui suis beaucoup plus jeune, c'est les trilogies suivantes. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle, le robot boule. Mais il y a d'autres choses.
Ah,
chez
c'est
nous.
B.
Oui,
Bibi,
je sais pas quoi. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils ont percuté. Mais enfin, BBQ, BB1, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Bibi quelque chose. On va trouver. Cherche sur Internet.
Fais une pause, ouais, c'est ça.
Ouais. Et en France, on a des petits robots, nous, d'accompagnement comme ça. On a Pepper, qui est un petit robot avec des jambes. On a Buddy, qui est une espèce de grosse boule avec une tête et qui peut te suivre dans la maison. Mais ça n'a jamais été des grands succès. C'est très compliqué à faire. Ça apporte pas énormément de choses parce que tout ce qu'ils peuvent faire au mieux, c'est se déplacer, te suivre, faire de la vidéosurveillance quand t'es pas là. Mais dès que tu veux leur mettre des bras pour porter des choses, ça devient beaucoup plus compliqué en termes de prix, d'autonomie, de prix, etc. Et puis, il y a le robot Optimus de Tesla.
C'est déjà autre chose.
C'est déjà autre chose. Mais je vois pas Apple aller sur ce genre de gadget qui... je sais pas. Tout est possible. Mais je me demande si c'est pas aussi une manière de recycler tous les ingénieurs qui travaillaient sur la voiture et de leur trouver une occupation aujourd'hui.
Tu penses à tous les brevets qui ont été développés, toute la connaissance qui a été faite, ils doivent recycler. S'ils veulent rentrer
c'est sûr.
Leur argent.
Il faut capitaliser le truc là-dessus.
Ouais. Bon, c'était BB-8 ou BB-8. Là.
Ah voilà, très bien. Merci BB-8. Parfait. À part ça, de quoi parles-tu cette semaine dans ton émission, juste après notre entretien, cher ami?
Je parle à une avocate qui conseille des influenceurs et avec elle, je fais une discussion sur le droit des influenceurs, mais aussi des obligations. Alors, c'est un thème qui revient systématiquement, mais je trouve que c'est intéressant.
C'est un gros sujet chez vous, ça? Ouais.
Ben oui, parce que chez nous, on n'a pas de loi comme chez vous. C'est un peu le n'importe quoi. La semaine prochaine ouvre à Québec la semaine numérique avec, c'est énorme, c'est 2000 personnes de la région de la ville de Québec qui se rencontrent, tous des gens qui travaillent dans le numérique, dans le privé, dans le public et aussi dans l'académique, et ils se rencontrent pour parler de différents sujets qui ont à voir avec le numérique. Alors, on parle avec le grand patron de cet événement-là. Et puis aussi, félicitations, Mistral maintenant fait partie de l'environnement d'AWS, parce que maintenant, on le retrouve sur Bedrock. Alors, je parle avec un des évangélistes de AWS pour avoir des informations sur pourquoi ils ont décidé d'intégrer
l'IA générative française. D'accord.
Exactement, oui.
OK. Bon, en tout cas, je vais te laisser poursuivre, Bruno, ton émission. J'invite les auditeurs de Monde Numérique à aller écouter mon carnet cette semaine, ton carnet, en l'occurrence, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Mon cher Bruno, je te dis à la semaine prochaine.
Je te dis hasta luego.
Hasta luego.
L'innovation de la semaine.
L'innovation de la semaine, c'est en fait un appareil que j'ai testé, comme je le fais de temps en temps, un produit un peu particulier. Il s'agit de la dernière balance connectée de la marque française WeThings, parce que c'est un produit qui est bourré de technologie, en fait. Et j'ai eu l'occasion d'essayer à peu près toutes les balances WeThings depuis la toute première, qui était d'ailleurs la première balance connectée sur le marché, enfin quasiment, je crois bien. C'était une petite révolution à l'époque, pouvoir comme ça suivre son poids sur une appli sur son smartphone au lieu de devoir tout noter sur un petit carnet à la main. Donc c'est intéressant de savoir un petit peu où on en est aujourd'hui. Voici donc la Bodyscan, c'est la toute dernière de la gamme de cette marque française, WeThings, et qui est plutôt intéressante à plusieurs égards. D'abord, la première impression, il faut le dire, il faut l'avouer, est assez bonne en termes de qualité de fabrication, de qualité de packaging. C'est vraiment très classieux, comme dirait l'autre, c'est digne d'un produit Apple. Bon, passons. Ensuite, au niveau des caractéristiques techniques et des fonctionnalités, eh bien, c'est bien plus qu'une balance, en fait. Oubliez votre vieux pèse-personne qui pouvait juste vous dire le nombre de kilos, votre nombre de kilos. Là, on va vraiment bien au-delà. En fait, c'est une analyse complète en une minute de tout un tas de paramètres. Alors, c'est pas pour faire le discours marketing de WeThings autour de ça, mais c'est un vrai check-up qu'on peut faire quotidiennement ou plus simplement de manière hebdomadaire, enfin de temps en temps comme ça, pour suivre plein de choses. D'abord le poids, évidemment, c'est la moindre des choses, même si sur cette balance, et ça c'est une originalité qu'ils ont introduite, eh bien on peut masquer l'affichage du poids. Si ça vous déprime de voir exactement combien vous pesez, vous pouvez faire disparaître le chiffre et vous ne verrez que l'évolution, et c'est ça qui est très intéressant, sur l'application de WeThings. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les taux de masse grasse et de masse musculaire. Ça, on commence à le trouver de plus en plus sur des balances. Mais là, ce nouveau modèle introduit une donnée supplémentaire qui est la répartition corporelle. Donc concrètement, quand vous vous pesez régulièrement, eh bien, vous avez sur l'application WeThings une image de votre corps et on vous dit où se trouvent les muscles, où se trouve la graisse, etc. Ce n'est pas inintéressant, ça peut vraiment révéler révéler parfois des surprises. Ça fonctionne par impédance bioélectrique, c'est-à-dire qu'on fait passer des petits courants électriques à travers de votre corps. Mais alors, pour que ça marche, eh bien, c'est là où on voit qu'on est au-delà d'une balance. Il ne suffit pas de se poser les deux pieds dessus. Il faut également tenir une espèce de guidon comme ça qui est relié à la balance par un câble et le guidon dans lequel il y a des capteurs. L'analyse prend à peu près une minute. Il faut aussi prendre le temps de faire ça périodiquement. Il y a également un électrocardiogramme. Bref, on est vraiment au-delà de la simple logique de mesure de poids. Ça pourra faire peur à certains, ça fait peur à certains. Et puis, en fait, ça répond aussi à des besoins de plus en plus évidents quand on essaye de surveiller sa santé, y compris de manière préventive, pour prévenir des maladies et pas seulement pour les guérir. Ça permet de savoir plein de choses et de suivre tout cela sur la durée, sur une application mobile. J'avoue que je me pèse depuis des années sur une balance connectée, et donc j'ai eu l'occasion de voir l'évolution au fil des années. C'est pas joli joli, hein, on va pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est quand même ça le gros intérêt de la chose. Alors il faut dire que cette histoire d'impédance bioélectrique, ça c'est pour la répartition masse grasse, masse musculaire. Bien sûr, les professionnels vous diront que ça ne vaut pas un appareil qu'on peut trouver chez le médecin ou autre à 3000 ou 4000 euros. Certainement, puisque là, on est dans un produit beaucoup plus grand public. Cette balance coûte 400 euros. On n'a certainement pas la précision d'un appareil professionnel, mais ce qui est intéressant au-delà de la précision, c'est l'évolution, là encore. Donc même si les chiffres ne sont pas hyper précis, bien, ce qui est important, c'est de voir comment on peut maigrir ou comment on a grossi, etc. etc. WeSings propose aussi d'ailleurs un service de coaching optionnel. Hein. On peut être mis en relation avec des professionnels, mais c'est payant, c'est en plus. Donc en résumé, si on regarde un peu les avantages et les inconvénients de ce type de produit, déjà, il faut en avoir envie. Parce que c'est certainement pas pour tout le monde. Hein. Les gens qui veulent juste avoir leur poids comme ça de temps en temps ne seront pas du tout intéressés par ce type de produit, qui est assez cher, il faut le dire, 400 euros, qui est assez contraignant à utiliser, puisque si on veut faire le check-up complet, je vous dis, il y en a pour une à deux minutes, on fait ça le matin au réveil. Après, ce n'est pas un truc qu'on fait tous les jours, mais c'est quand même un produit qui montre qu'on est entré dans une nouvelle ère de surveillance très technologique de notre état de santé, et c'est ça qui est quand même vachement intéressant. Un produit qui s'inscrit donc dans l'écosystème des appareils WeSings, hein, c'est qui avait lancé notamment un analyseur d'urine qui avait un peu fait le buzz au moment du CES de Las Vegas en 2023. Voilà, donc cette body scan de WeThings qui est l'illustration parfaite en réalité de la e-santé et de la technologie au service de la santé.
Monde numérique, le meilleur de la tech.
Les interviews de Monde numérique à présent. Dans un instant, on va retrouver un acteur historique de la navigation GPS. Il s'agit de la marque TomTom. TomTom qui a beaucoup évolué. Et vous allez voir que ce sur quoi il travaille aujourd'hui est assez intéressant également. Et puis, avant cela, je vous emmène dans un lieu prestigieux, dans un lieu incroyable qui a vécu une tragédie il y a quelques années. Je veux parler de Notre-Dame de Paris, la cathédrale, l'incendie de Notre-Dame qui a évidemment ravagé la cathédrale. Celle-ci va rouvrir dans le courant de l'année 2024, très prochainement. C'est en préparation. Et il faut savoir que la reconstruction de Notre-Dame, qui a été un travail absolument colossal, qui a nécessité l'intervention de centaines de compagnons, de professionnels, ce qui se fait de mieux en matière de construction en France, c'est en partie grâce à la technologie et notamment aux techniques de jumeaux numériques. Alors tout cela est palpable, on peut le voir concrètement à Paris à l'occasion d'une exposition dans laquelle je vous emmène tout de suite. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, en version complète, la semaine prochaine. Bonjour Mehdi Tayoubi.
Bonjour.
Vous êtes vice-président innovation chez Dassault Systèmes. Nous sommes au Musée de l'architecture à Paris, au Trocadéro. Vous venez de m'emmener faire une visite, alors une visite virtuelle. dans Notre-Dame. Et c'est une visite à la fois dans l'espace et dans le temps, grâce à un casque de réalité virtuelle. Et c'est donc une expérience et une exposition hein, qui est présentée ici. Vous pouvez nous la décrire un peu, en quoi ça consiste ?
Alors effectivement, Jérôme, on est ici à la Cité de l'architecture et du patrimoine, dans lequel Dassault Systèmes, à travers un partenariat avec le musée, a créé un espace qu'on appelle un téléport et qui permet de se téléporter à l'échelle 1-1, à l'échelle grandeur nature, dans des données tridimensionnelles. Donc c'est un espace où on accueille avant tout des chercheurs et des scientifiques. Et en l'occurrence, depuis plus d'un an et demi, on travaille avec le CNRS à travers toutes les données en fait tridimensionnelles de la cathédrale, des empreintes qui ont été prises à différents moments de la vie de la cathédrale. Donc on va avoir des nuages de points qui ont été faits avant l'incendie, des nuages de points qui ont été faits juste après, des nuages de points qui représentent aussi l'avancée du chantier de reconstruction de la cathédrale. Et on propose en fait au grand public de se mettre dans la peau de ces chercheurs qui sont venus ici faire plusieurs ateliers de travail dans ces données et de leur montrer à quoi peut ressembler ces données professionnelles, ces données scientifiques pour mieux comprendre la vie de la cathédrale et le chantier de reconstruction.
Voilà, il faut bien comprendre que c'est pas un jeu vidéo, c'est pas une animation touristique, ce sont vraiment des modèles virtuels, professionnels qui ont servi à reconstruire la cathédrale.
Alors tout à fait, ce sont des données issues en fait de relevés professionnels qui ont été faits soit par relevé laser avec des appareils qu'on appelle des lidars, soit par photogrammétrie, c'est-à-dire prendre plusieurs centaines de photos et puis ensuite avec des algorithmes on reconstitue le jumeau virtuel par nuage de points. Et donc ce sont des données qui ont permis à la fois aux scientifiques de mieux comprendre la cathédrale et aussi aux restaurateurs, aux reconstructeurs, de faciliter finalement le chantier de reconstruction de la cathédrale.
Donc on peut se promener dans une cathédrale grandeur nature, mais on peut également observer une maquette de la cathédrale, on peut se déplacer en hauteur, on peut aller sur le toit. Vous m'avez emmené tout à l'heure là où se trouvait la flèche précédemment, la flèche de la cathédrale qui a brûlé. C'est assez impressionnant, mais ça a vraiment servi donc à toutes les équipes scientifiques pour arriver à faire quoi ? À refaire Notre-Dame de Paris comme elle l'était à l'origine ?
Alors ça permet avant tout aux scientifiques, c'est-à-dire que ce qu'on souhaitait c'était que les scientifiques s'approprient nos outils logiciels et eux-mêmes soient capables de créer leur propre scénario de déambulation pour pouvoir organiser des réunions transdisciplinaires, c'est-à-dire se dire bah tiens moi je suis spécialiste du bois, j'ai envie de discuter avec un spécialiste du métal, un spécialiste de la pierre, on va se téléporter au lendemain de l'incendie, sur les vestiges, sur l'extrado des voûtes, et on va pouvoir discuter d'hypothèses que l'on avait émises dans nos labos. Mais finalement, le fait de se retrouver à plusieurs, téléporter dans ces données tridimensionnelles à l'échelle 1-1, ça facilite les discussions, ça facilite aussi la validation de certaines hypothèses. Je prends pour exemple ce qu'on a fait par exemple avec le groupe de travail bois, qui eux étudient les datations des vestiges en bois de charpentes qui ont été retrouvées, essayer de comprendre leur localisation initiale par rapport à la charpente d'origine, pour pouvoir en fait affiner par exemple des hypothèses de datation en se disant tiens, le bout de bois, le vestige que j'ai étudié en laboratoire, si je retourne dans le temps, je remonte dans le temps et je vais sur l'extrado des voûtes, je peux voir ce bout de bois, ce vestige sur l'extrado tel qu'il était après l'incendie, se dire bah, tiens, a priori, il a dû rouler de telle position à telle position, et si je resuperpose la charpente remodélisée, je vais me dire qu'elle vient de cet endroit-là, par exemple.
Alors, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de l'architecture, qu'est-ce que c'est qu'un extrado ?
L'extrado, c'est l'extérieur des voûtes.
D'accord. Voilà. Et donc, quand on se promène dans cette cathédrale virtuelle, donc il faut bien comprendre que ce sont des points, c'est un nuage de points, donc l'image n'est pas, elle est à la fois ultra réaliste et pas ultra réaliste, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément toutes les textures, il n'y a pas tout le, mais en même temps il y a beaucoup de détails et toutes les mesures sont exactes.
On est vraiment dans une empreinte tridimensionnelle de la cathédrale, précise au millimètre, puisqu'en fait on va faire des relevés, enfin les relevés laser qui sont effectués permettent de prendre l'empreinte, la position de chaque point dans l'espace, son code colorimétrique, et donc c'est ce qu'on peut avoir vraiment de plus précis en termes de copie d'instantané de la cathédrale à un moment donné.
Voilà, donc cette exposition qui est donc ouverte à tous, hein, n'importe qui peut venir.
Tout à fait. Donc, les ateliers de travail avec les scientifiques vont continuer, mais on ouvre ce téléport au grand public les jeudis, les samedis. Ce sont toujours des petits groupes, c'est pas plus de 6 personnes. On a toujours un médiateur réel, une intelligence naturelle du guide conférencier avec qui on va pouvoir discuter, échanger. Et on est aussi ouvert pendant toute la période des vacances scolaires.
Merci beaucoup Mehdi Tayoubi, vice-président innovation chez Dassault Systèmes.
Merci à vous Jérôme.
Bonjour Léo Sey.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes vice-président chargé des produits chez TomTom. TomTom, quasiment une marque mythique de la tech. Hein. Qui n'a pas eu son GPS TomTom? Vous pouvez nous rappeler un petit peu, malgré tout, pour ceux qui, à qui ça aurait échappé, en quelques mots, l'histoire de cette marque et ce qui s'est passé ces dernières années?
Alors TomTom, un peu plus de 30 ans, t'es le pionnier du GPS embarqué dans beaucoup de voitures au début des années 2000. Ça a fait son succès, ça a démocratisé la navigation embarquée, ça a été un innovateur pour être capable de mettre une carte et de la navigation dans un tout petit appareil dans toutes les voitures. Alors c'est sûr que l'arrivée des smartphones et la démocratisation des applications de cartographie, de navigation, aussi bien Google que Apple plus récemment, a rendu la tâche plus difficile ou le marché plus petit. Donc TomTom a su basculer et travailler beaucoup avec les constructeurs automobiles pour continuer de fournir sa cartographie, sa navigation, ses informations d'aide à la conduite directement dans les voitures, aussi bien pour la navigation de base, mais aussi pour toutes les aides à la conduite de plus en plus sophistiquées qu'on voit avec la direction vers l'automatisation de la voiture. Et puis plus récemment, on s'attaque à un gros chantier qui est comment réanimer ou comment raviver un peu le marché de la cartographie, qui est un marché très pervasif. Tout le monde a besoin de données de localisation, et puis pourtant c'est devenu une commodité. Google Maps, Apple Maps, ça existe, c'est partout. Donc pour vivre de ce business, c'est très compliqué. On a fait le choix de l'open source et de construire notre business dessus. On a plein d'idées très intéressantes qui semblent résonner avec le marché. Voilà, donc c'est la troisième page peut-être de TomTom qui est en train de s'écrire.
Et puis TomTom qui est, rappelons-le, une entreprise européenne, hein, basée à Amsterdam, fondée à Amsterdam. Mais c'est vrai que ça a été dur de résister au bulldozer Google, Waze, etc. On va en parler. Alors aujourd'hui, TomTom, vous faites quoi? Vous faites encore des appareils TomTom ou uniquement du logiciel et de la cartographie?
On a toujours des appareils. Il y a certains marchés un peu niches qui sont toujours intéressés par ces appareils. Je pense aux poids lourds, je pense aux camping-cars et aux caravanes qui aiment bien avoir des grands écrans, parce que le téléphone ne fait pas forcément, qui aiment bien avoir des données spécifiques. On rappelle que Google ou Apple n'ont pas forcément les informations de hauteur de tunnel ou de rayon de virage, etc. Donc certains types de véhicules sont toujours friands de ce type d'appareil hardware. Mais pour le gros de notre business, c'est effectivement de la cartographie et du software.
La navigation GPS, c'est de plus en plus du temps réel aujourd'hui?
Oui, la navigation et la carte autour de nous. Notre ambition, c'est d'avoir une carte quasiment en temps réel à tout point de vue. Donc aussi bien du trafic, des fermetures, des situations géographiques, de météo, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'être capable d'utiliser tous les signaux qu'on peut, de caméras, de communautés, de position des téléphones, etc., pour essayer de créer un digital twin, comme on dit en anglais, qui représente la réalité de manière parfaite. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, moi, en tant que conducteur, je me dirais, bon, on est sur Google Maps ou sur Waze, c'est bon, on a ce qu'il faut. Mais il faut savoir que, je vais vous donner deux exemples, par exemple. Vous prenez un livreur de nourriture, qui aux États-Unis ou en Europe, souvent sont en voiture, dans les grandes villes ou dans la campagne. Ils peuvent avoir des problématiques, par exemple, si je veux que ma soupe, elle arrive pas complètement renversée. On a tous eu cette livraison où la soupe arrive, elle est complètement renversée.
Il vaut mieux pas commander de la soupe, hein, en général.
Ouais. Non, mais voilà, on
commande mieux avec
de la
les frites,
soupe,
hein.
On sait que ça n'arrive pas bien. Mais du coup, si le VTC est en mesure d'éviter les dos d'âne, par exemple, un point très bête, eh ben il peut optimiser sa course pour que la nourriture arrive de manière à peu près intacte. Et pareil pour la navigation. Moi, je sais qu'en tant que conducteur, avant de travailler chez TomTom, j'étais friand de Waze et de Google Maps et je les utilise toujours pour comparer. ça m'arrive quand même souvent de louper ma sortie ou de pas prendre la bonne intersection parce que j'ai 5 voies devant moi. Et si vous avez conduit aux États-Unis ou en Asie, c'est encore pire. Donc, il y a encore plein d'innovations là-dessus pour aider le conducteur à ne pas être stressé, à pouvoir se dire « Ok, j'ai confiance que ça va être exactement là que je dois aller et je suis pas en train de faire des manœuvres de dernière minute parce que j'ai loupé ma sortie. » Donc, il y a toujours de l'innovation possible là-dessus.
Merci beaucoup, Léo Say, vice-président chargé des produits chez TomTom.
Merci.
C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 6 avril 2024. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Retrouvez toutes les interviews intégrales sur toutes les bonnes plateformes de podcast et puis également sur le site mondenumérique.info. Abonnez-vous à la newsletter, vous serez informé immédiatement d'un nouveau contenu, de la parution d'un nouvel épisode. La semaine prochaine, je peux déjà vous annoncer qu'on parlera notamment d'exosquelettes. Il y a plein de choses passionnantes à raconter à ce sujet. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut.